Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec seulement une partie de l'équipe puisque Pierre et Mohamed sont à Cannes. On les retrouvera juste après 20h et nous parlerons de la cérémonie d'ouverture de cette 75e édition qui s'ouvre en ce moment à Cannes. Donc bonsoir à ceux qui restent, bonsoir à Émilie, Patrick et Jean-Baptiste. Et oui, on est là, on reste, on ne vous lâche pas, c'est promis. Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Jusqu'où iront les prix? 438 euros la tonne de blé, c'est un record absolu qui vient d'être atteint. C'était à moins de 200 euros il y a encore un an à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi de la sécheresse en Inde.
On en parle avec Nicolas Bétou, journaliste directeur du quotidien L'Opinion. On parlera aussi des chantiers, les défis que devra relever Elisabeth Borne, fraîchement nommée à Matignon. Patrick, votre édito ce soir.
La chute de Mariupol, la plus grande bataille de cette guerre d'Ukraine, grande ville portuaire du sud du pays, conquise par l'armée russe, et avec des images qui rappellent celles d'il y a 80 ans exactement.
On en parle avec deux journalistes qui connaissent bien la région, Régis Janté, correspondant dans l'ancien espace soviétique pour RFI, France 24 et Le Figaro, et Stéphane Sian, correspondant en Ukraine pour Libération et RFI. Vous signez la première biographie consacrée à Volodymyr Zelensky, dans la tête d'un héros. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir, bonsoir.
Merci de votre présence, on en parle longuement. Jean-Baptiste, dans le 5 sur 5 ce soir.
Nous sommes le 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, et une nouvelle fois, le monde du foot se retrouve pointé du doigt, puisqu'un joueur du Paris Saint-Germain a refusé, en tout cas s'est fait porter pâle le week-end dernier à l'occasion d'une journée où tous les joueurs arboraient un t-shirt, un maillot arc-en-ciel, et le PSG est en train de lâcher son joueur.
Il a dû dire que c'est pour cette raison-là qu'il n'a pas voulu participer à cette journée. Nos invités du dîner, Marion Cotillard, Melville Poupeau, Arnaud Desplechin, ils nous parlent de Frères et Sœurs, c'est le 10e film d'Arnaud Desplechin en compétition à Cannes. Voilà, ça sort en mai, le 20 mai prochain en salle et à Cannes simultanément. Ils sont nos invités du dîner. Dîner préparé par Yoni. Attention, chef d'un restaurant au nom portugais que je vais écorcher dans un peu plus d'une seconde. Rios dos Camarões. C'est pas mon treuil. Qu'est-ce que ça veut dire en portugais, Rios dos Camarões?
Rivière de crevettes. Ah, en gros, il y a un explorateur, Fernão Dopo, en 1472, qui est arrivé sur la rivière du Cameroun, une rivière remplie de crevettes, Rio dos Camarões. Et après, c'est devenu Cameroun.
Et logiquement, vous nous faites donc du poulet ce soir.
Exactement. Je vous emmène au Cameroun avec des produits locaux français.
Un poulet directeur général.
C'est ça.
Eh bien, merci beaucoup.
Ça s'appelle
beaucoup.
Un PDG.
C'est exactement ça.
Ah, moi, je vous disais, moi, c'est écrit un poulet DG, mais c'est un PDG. Eh bien, on va manger un PDG ce soir. Et on n'est pas des cannibales. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. À Mariupol, les derniers combattants ukrainiens assiégés depuis près de trois mois se sont rendus aux forces russes.
Après 83 jours de ce qui restera comme la bataille la plus longue, la plus sanglante et la plus destructrice de cette guerre d'Ukraine, le dernier bastion de la résistance ukrainienne s'était niché dans les kilomètres de galeries souterraines d'Azovstal, jadis l'une des plus grandes usines métallurgiques d'Europe.
Вчера началась сдача в плен бойцов националистического подразделения Азов. Заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики.
des dizaines de combattants qui ont donc pris la direction du territoire ennemi et que Kiev espère récupérer lors d'un échange de prisonniers, ce qui paraît assez peu probable parce que pour Moscou, ce bataillon Azov représente cette Ukraine qui serait à dénazifier et donc au mieux à punir et à juger. D'ailleurs, il y a une heure, la justice russe annonçait son intention de classer le bataillon Azov comme organisation terroriste.
La prise de Mariupol est le plus grand échec militaire ukrainien.
Oui, c'est un revers et un symbole. D'abord parce que cette conquête stratégique prive l'Ukraine de l'essentiel de ses côtes. Elle permet aux Russes de faire la jonction entre la Crimée, le Donbass et la ville de Rostov, couloir essentiel où pourront passer le ravitaillement, les armements et les soldats pour nourrir l'offensive du front de l'Est. Et puis Mariupol était devenu le symbole à la fois de la résistance ukrainienne et de la détermination de l'armée de Poutine à affamer les populations et à détruire les villes qui lui tiennent tête. Les Ukrainiens ont compté 20 000 morts dans le siège de Mariupol, dont près de 600 dont dans le théâtre visé par une frappe où des centaines d'habitants avaient trouvé refuge, vous vous souvenez, malgré l'inscription « enfant » aux abords du bâtiment. Et combien de morts de faim dans une cité où les gens sont restés pendant des semaines prisonniers de cet enfer bombardé sans relâche.
Mariupol est désormais en ruine.
Pratiquement rayé de la carte, comme il y a 80 ans. C'est une répétition terrifiante et fascinante à la fois. Les images que vous allez voir datent de l'automne 41, quand les actualités françaises relayaient la propagande nazie et donnaient à voir les conquêtes de l'armée du Reich sur les troupes de Staline.
Après l'Ukraine agricole, l'Ukraine industrielle avec le bassin du Donetsk est entre les mains du Reich. L'Ukraine, grenier à blé de toutes les Russies, et voici les gigantesques silos du port de Mariupol. L'Ukraine, centre industriel le plus important de l'URSS, et voici les aciéries de Petrovski, usine primordiale de l'armement soviétique qui occupait près de 40 000 ouvriers travaillant nuit et jour en trois équipes.
Mariupol reconstruite évidemment après-guerre, redevenant le centre métallurgique de l'Ukraine et le deuxième port du pays après Odessa pour l'exportation d'acier, de charbon, de blé vers le Moyen-Orient et une partie de l'Europe de l'Est. De tout cela, il ne reste à nouveau plus rien.
Un héros qui a perdu une bataille, Volodymyr Zelensky, dont vous tracez la biographie dans ce livre. Un coup dur pour l'Ukraine, Patrick le rappelait, et une victoire dont on va pouvoir s'enorgueillir, Vladimir Poutine.
C'est une victoire personnelle pour Poutine.
Exactement. Je vous voyais tous les deux regarder ces images de Mariupol, dont il ne reste rien. C'est une ville que vous connaissez, Mariupol ?
C'est une ville que je connais très bien, parce que je travaille en Ukraine depuis une dizaine d'années. Je suis installé depuis 2013 à Kiev et depuis 2014, depuis le début de cette guerre dans le Donbass, nous nous sommes régulièrement rendus en reportage là-bas. C'était la grande ville du Donbass qui était encore sous contrôle ukrainien. C'est une ville qui est très symbolique pour Volodymyr Zelensky lui-même. J'ai le souvenir qu'après son élection, Volodymyr Zelensky, à l'automne 2019, avait organisé le premier grand forum d'investissement international pour la reconstruction du Donbass en guerre. À Mariupol, il avait fait venir énormément d'investisseurs américains, européens. Il avait inauguré une délégation de l'Union européenne à Mariupol. C'est une ville qui lui tient au cœur, qui lui tient à cœur. C'est un homme du sud-est de l'Ukraine. On en parle dans ce livre. Et il est proche des gens du Donbass. Donc je pense que pour lui, à titre personnel, il s'agit sans doute d'une défaite. Mais je dois également dire qu'il y avait des enjeux humanitaires qui étaient extrêmement forts parce que le calvaire des défenseurs d'Azovstal était largement médiatisé en Ukraine. Et le fait de les sortir de là était très important.
Dès hier soir, d'ailleurs, le président Volodymyr Zelensky s'est exprimé sur l'évacuation des soldats de cette usine vers des territoires pro-russes et il a lancé ce message « L'Ukraine a besoin de héros vivants ».
Je veux підкреслити, українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності і часу.
Vous faisiez quel commentaire sur ce que la déclaration de Volodymyr Zelensky?
Non, je disais qu'effectivement, il n'était pas certain que ces militaires reviennent bientôt libres en Ukraine. Il faut voir, en même temps, on parle d'un échange de prisonniers.
Mmh. Donc, c'est ce que dit Kiev, mais...
Effectivement, c'est pas certain du tout. Sur la défaite, juste un tout petit mot sur Mariupol, effectivement, c'est une défaite, c'est clair, mais juste pour la relativiser un tout petit peu, il faut voir aussi que ça a permis pendant des semaines aux Ukrainiens de fixer des forces russes importantes ici, et ça explique peut-être les revers que subissent les Russes ailleurs autour de Kharkov.
Bien sûr.
exemple.
Volodymyr Zelensky, qu'on voit définitivement dans son costume de chef de guerre, alors que peu ou pas d'observateurs de la vie politique ukrainienne ne s'attendaient à ce que cet homme soit aussi combatif dans ce rôle. C'est l'un des traits caractéristiques de ce que vous décrivez dans ce livre. Personne n'y croyait, à cette mue-là.
Non, absolument. C'était, peut-être que lui-même n'y croyait pas. En tout cas, on ne sait pas. Mais effectivement, ce n'était pas véritablement attendu. C'est quelqu'un qui a gagné l'élection sur un programme de paix. Je vais faire la paix avec les Russes. Ça veut dire que je vais faire des concessions. Et ce qui était effectivement problématique. Mais en même temps, il avait été en partie élu sur ce programme. Oui. Et effectivement, le 24 février au matin, il se révèle un véritable chef courageux.
Qui un va véritable son... chef. Et à la fois, Régis Gentil, vous nuancez en disant que l'armée ukrainienne, elle fonctionne sans lui, en quelque sorte.
Oui, absolument. Ouais. C'est vrai que sur l'idée du chef de guerre, c'est quelque chose qui pourrait être questionné en quelque sorte. Il est le chef du pays, il a une vraie légitimité, il incarne le désir de ce pays de se battre, de ne pas renoncer face à la Russie, il veut son indépendance, il est le chef en ce sens. Mais l'armée aussi, parce que l'Ukraine n'est pas un régime autoritaire, n'est pas un régime dictatorial, l'armée fonctionne, on a l'impression assez seul de son côté, de manière autonome.
Et si les observateurs étaient frileux, voire circonspects à l'égard de Volodymyr Zelensky et de sa capacité à faire face en cas de crise majeure, c'est aussi dû à son parcours, cet homme de télévision, son profil et la drôle de campagne qu'il a amené au pouvoir. Campagne que vous avez suivie, un candidat que personne n'avait vu venir et comme par hasard, son modèle en politique, c'est Emmanuel Macron et ça vous a frappé très rapidement, Stéphane Sion.
Oui, tout à fait. C'était une référence, en tout cas, pour Volodymyr Zelensky. La première fois que je l'ai rencontré, 3 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, avec quelques journalistes, on lui avait demandé quelles étaient ses références politiques. Et il nous avait donné 2 noms. On avait un petit peu halluciné parce que c'était Emmanuel Macron et Bolsonaro, qui sont quand même deux personnages tout à fait différents. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'âge. Ce sont deux hommes qui sont nés la même année. Et ce qui m'avait frappé, Volodymyr Zelensky disait qu'il aimait l'esthétique de Emmanuel Macron. Il avait utilisé ce mot, c'était assez frappant. Une sorte de style de pouvoir, mais également une façon d'envisager la politique.
Dégagisme, culture technocratique, fidélité au chef, ça fait partie des points communs, mais aussi capacité à brasser du vent.
Oui, tout à fait. Alors ça, on l'a vu un petit peu plus tard, après 2 années de pouvoir. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les conseillers de Volodymyr Zelensky dans la campagne, lorsqu'on en parlait, ils nous disaient que très clairement, ils regardaient du côté de La République En Marche pour structurer leur parti politique, mais ils regardaient également du côté des Gilets jaunes. C'était quelque chose d'assez étonnant. Ils prenaient un tout petit peu des deux. Il y avait ce côté un peu populiste, attrape-tout. Zelensky n'est pas quelqu'un qui a une structure idéologique, intellectuelle extrêmement forte. Et donc, il avait ce petit côté gentiment populiste. Et c'est vrai qu'on n'a pas le en même temps, mais il y a quand même quelque chose chez Volodymyr Zelensky, une capacité à parler longuement sans qu'on comprenne trop où il veut en venir. Il y a cette difficulté à se positionner idéologiquement. Alors l'Ukraine n'est pas comme la France, on ne parle pas de gauche et de droite en Ukraine, c'est pas du tout la même organisation partisane. Mais il y a des éléments que je trouve très frappants, qui me rappellent plus que les deux personnages, le mouvement La République En Marche et le mouvement Serviteur du peuple qui a été créé par Volodymyr Zelensky.
Directement inspiré de sa série de télévision. Il a mené une campagne très Nouveau Monde aussi, hein, Zelensky. Tout s'est passé sur Instagram, où on l'a vu dans une salle de musculation, à la piscine, en réunion, en voiture. Mais jamais, enfin presque jamais, aucun discours public et surtout aucune interview télévisée parce que les face-à-face, les questions-réponses avec des journalistes, quand tout n'est pas préparé, écrit par son équipe, il est très mal à l'aise.
Ah, il était très mal à l'aise. Il a évité, alors donc là on voit à l'image son QG de campagne où j'ai pu me rendre à quelques moments, mais c'est vrai qu'il évitait les tête-à-tête. Il a déclaré son intention de devenir président la nuit du 31 décembre 2018. Et quelques jours plus tard, donc moi je me suis rendu compte, dans sa société de production, c'est un producteur audiovisuel de talent, on m'a donné quelques accès pour aller sur les tournages de sa série, pour aller dans ses émissions, sur les plateaux. Par contre, il y avait une règle, c'était qu'on ne pouvait pas s'approcher de lui. Et il nous voyait, il faisait quelques petits sourires. Parfois, il est venu 1 ou 2 fois serrer la main. Mais il y avait une stratégie d'évitement pour ne pas qu'il ait à parler à des journalistes. La seule fois où il a parlé à une équipe, c'était à la BBC. Ça s'est très mal passé. On l'a interrogé sur ses liens oligarchiques. Et à partir de là, ils ont totalement fermé les accès aux médias jusqu'à l'élection.
Et pourtant, il est élu avec 73% des voix. C'était le 21 avril 2019. Son ascension a été suivie par l'Europe et par les diplomates européens qui s'inquiétaient de ce phénomène, qui ont voulu le rencontrer, le tester, et qui sortent de cette réunion en disant « Oh là là, mais il ne maîtrise absolument pas ses dossiers, c'est une catastrophe ».
Absolument, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il refusait les interviews, parce qu'il savait qu'il était vraiment très mauvais, il savait à peine ce que c'était que l'OTAN, il savait à peine ce que c'était que comment fonctionnait son pays, les mécanismes bureaucratiques, etc. Et Dieu sait si c'est important en Ukraine, c'est un pays très bureaucratique. Et effectivement, il y a cette réunion avec des diplomates européens, et en fait, il ne dit presque rien, ce sont ses conseillers qui parlent, et chacun en ressort catastrophé. Lui le premier, assez humilié d'ailleurs, et c'est ce qu'il va faire ensuite, qu'il va beaucoup travailler.
Il va beaucoup travailler et compiler et apprendre par cœur des dossiers comme on apprend des textes d'une série télé.
C'est ça. Ça, c'est au début, c'est pour pouvoir sauver la face, et puis petit à petit, il va vraiment travailler les dossiers. On voit maintenant qu'il ne fait pas d'erreur, il a beaucoup moins peur de la presse d'ailleurs, et il y va beaucoup plus volontiers. Ça reste contrôlé, mais il est bien meilleur.
Contrôlé, enfin, il a fait une longue conférence de presse. Dans le métro de Kiev. Enfin, moi, j'en ai vu des grands bouts. Il maîtrisait, oui. Il avait l'air de oui, assez bien maîtriser le question-réponse et le face-à-face avec des gens.
Il a fait des progrès, hein, c'est un énorme bosseur. C'est clair que c'est pas un intellectuel au départ, mais par contre, il a une capacité de travail très très forte. Tous ses conseillers, les gens qui l'ont accompagné le disent. Il apprend très vite, et puis je crois qu'il a appris les codes de la politique, et il a appris un tout petit peu à dompter les journalistes aussi. Et ça, il le fait beaucoup mieux qu'avant.
Et une capacité de réaction et d'adaptation aussi. Quand on voit la métamorphose, vous parliez du 24 février, il faut regarder la vidéo du 25 février aussi, donc un jour après l'invasion de l'Ukraine. Les médias russes affirment que Volodymyr Zelensky a quitté l'Ukraine et lui, ben, il réplique.
Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність. Нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні!
Слава! Alors, ce n'est pas sa vidéo la plus produite, on le voit, c'est un selfie pris comme ça, avec cinq membres à ses côtés, mais vous la comparez à l'appel du général de Gaulle ?
Moi, je crois que cette vidéo, elle restera dans l'histoire. Je m'en souviens très, très bien quand je l'ai vue cette nuit-là. Lorsque la guerre a éclaté, moi, j'étais à Kramatorsk, dans le Donbass, et il m'a fallu un petit peu de temps pour revenir sur Kiev. Il faut comprendre qu'avant cette guerre, dans l'opinion ukrainienne, il y avait d'énormes doutes sur la capacité de Zelensky à endosser le rôle du chef si jamais un conflit devait éclater. Il y avait une certaine forme de déni dans la société par rapport à cette guerre qui montait, mais si jamais quelque chose devait se passer, il y avait des crainte que Zelensky ne soit pas à la hauteur. Et Zelensky lui-même envoyait des signaux dans les médias qu'il ne croyait pas à cette guerre. Et d'ailleurs, plusieurs diplomates nous l'ont confirmé qu'encore quelques jours avant, il n'y croit pas. Et là, ce qui s'est passé 24 heures avant cette vidéo, c'est qu'il se retrouve comme chef de guerre parce qu'on se souvient tous du discours de Poutine, les bombes qui tombent sur Kiev, lui qui va réveiller ses enfants, qui sont jeunes, qui sont des adolescents, et il reste dans ce bâtiment, et maintenant, il commence à y avoir un brouillard qui se dissipe sur les événements, mais on sait que dans les 48 premières heures, donc juste avant cette vidéo, les Russes ont envoyé dans le centre-ville de Kiev deux commandos, dont un Tchétchène, dont le but était d'éliminer Volodymyr Zelensky et sa famille. On a appris également il y a quelques jours que ces commandos sont arrivés aux portes de la présidence, que des gilets pare-balles et même des armes automatiques ont été confiées à Zelensky et à ces mêmes conseillers que vous voyez à l'écran. Et donc là, il y a une geste qui est extrêmement forte, c'est de dire aux Ukrainiens, je suis là, on
j'ai
est
pas
là,
peur,
on va
je
se
reste.
Battre. Oui. Et sa popularité a
alors
grimpé
que
de
avant,
20%
vie,
à 90% dans le pays. Et 24 heures après, c'est 100 000 Ukrainiens qui font la demande de s'inscrire dans la défense territoriale. Ouais. Donc je pense qu'en tout cas, dans l'histoire de l'Ukraine, ça restera comme un moment fort.
C'est
dans la propagande du moment russe, on parle des Tchétchènes qui sont présentés comme des épouvantails, ce qui en fait ne sera pas le cas. On s'aperçoit qu'ils viennent avec des équipements de police et qu'ils ne sont pas du tout taillés pour ce combat. Mais n'empêche que l'image est là. Et puis la 76e division aéroportée, je crois, de Pskov, qui est aussi un autre épouvantail. Pour le coup, ce sont des gens vraiment compétents qui tâchent de prendre un aéroport tout près de Kiev, militaire, pour venir précisément le chercher lui et sa famille, etc. Quoi. Donc il y a aussi toute cette ambiance et ce qui donne toute cette valeur à cette vidéo.
Malgré ça, il n'est jamais parti et il devient même une bête de communication. Il s'en sert là dans la guerre. L'un des derniers exemples, c'est le 9 mai dernier, date à laquelle donc la Russie commémore la victoire de 1945, comme l'Ukraine d'ailleurs. Vladimir Poutine s'apprête à faire son discours annuel Place Rouge à Moscou. Le président ukrainien publie, lui, une vidéo digne d'un blockbuster.
Ми пишаємось нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги. Перемоги України. Слава Україні!
La communication, clairement, c'est son arme de guerre. Et c'est d'ailleurs, il a une équipe avec lui. Vous dites une des meilleures équipes au monde actuellement en termes de communication politique. Ça peut lui faire gagner la guerre?
Ah, totalement. Moi, j'ai entendu à plusieurs reprises que Zelensky avait des spin doctors anglais ou américains qui le conseillaient sur la communication. Moi, pour fréquenter son équipe à certaines occasions, non, il n'a pas de spin doctors occidentaux. C'est plutôt les Ukrainiens qui devraient donner des cours aux Anglais ou aux Américains. Pour moi, ils sont d'une modernité absolument incroyable. Alors, on aime ou on n'aime pas ce style, mais Volodymyr Zelensky est un président écran. Il faut comprendre qu'avant de devenir président, il n'est pas seulement comédien, acteur, il est également dirigeant de Kvartal 95, qui est la plus grande société de production audiovisuelle du monde ex-soviétique, à part la Russie. Donc, c'est un homme qui est un homme d'affaires qui envoie, qui produit des contenus qui sont exportés dans à peu près 25 pays. Et donc, il comprend tous les codes de l'image. Alors, le cinéma qu'il fait, les séries qu'il fait, c'est pas les meilleurs du monde. C'est des produits qui sont relativement mainstream, mais lui et son équipe maîtrisent absolument tous les codes de l'image, les steadicam, les caméras qu'il faut utiliser, quel objectif pour créer quelle émotion. Et ce que fait Zelensky est un coup absolument incroyable. Lorsqu'il arrive au pouvoir, il emmène les gens de sa boîte de prod avec lui. Et à un moment donné, la première année de la présidence, les 5 personnes qui comptent autour de Zelensky à la présidence sont tous des producteurs audiovisuels ou des producteurs de cinéma. Un des hommes qui est sur cette vidéo donc nocturne devant la présidence, oui, c'est Andrei Yermak, qui est le chef de l'administration présidentielle, qu'on appelle parfois le vrai président en Ukraine. C'est un producteur de cinéma avant la présidence de Zelensky, qui est juste derrière lui, là, le plus, oui, grand. Donc en fait, c'est une bande de producteurs, de professionnels de la télévision qui ont fait un casse politique et qui n'ont même pas besoin de conseillers en communication, puisqu'ils sont eux-mêmes leurs, ouais, propres conseillers.
Mmh. Mais j'ai l'impression que ça ne s'épuise pas dans la communication. Je veux dire, s'il est capable de faire ça, si ces images percutent autant, c'est aussi parce qu'il a une vraie légitimité, qu'il incarne.
Sinon, ça tournerait dans le vide.
Et ce qui lui permet de faire ça, ce qui fait qu'il est suivi, c'est qu'on sent qu'il y a tout un peuple. Et là, c'est toute sa plasticité, parce que lui, c'est ce qu'on essaie de raconter dans ce livre, il est plutôt taillé pour vivre dans le monde russe, en réalité. Mais la population ukrainienne, elle ne l'est plus, elle a quitté ce monde, et M. Poutine a beaucoup fait pour ça. Et lui, Zelensky, il incarne ça.
On parlait des relations de fascination de Volodymyr Zelensky pour Emmanuel Macron. Leurs rapports se sont quelque peu distendus ces derniers temps. On a appris qu'ils avaient échangé pendant un peu plus d'une heure aujourd'hui. Emmanuel Macron a assuré au président ukrainien que la livraison d'armes serait intensifiée dans les jours et les semaines à venir. Les relations se sont tendues. Pourquoi ? Que reproche Volodymyr Zelensky à cet homme qu'il a tant admiré ?
Alors, pas plus tard que hier, je discutais avec un politologue ukrainien qui me parlait pour Zelensky de son côté émotionnel et critique. C'est-à-dire qu'il a appris les codes de la politique, très clairement, en 3 ans. Il fait le job, on peut le critiquer sur plein d'aspects. Mais il y a quelque chose qui est encore considéré comme un défaut en Ukraine, c'est son émotionnalité et de vouloir mettre de l'affectif dans les relations avec les grandes ce monde. Ça a été le cas notamment avec Angela Merkel. Il y a eu une grosse passe d'armes avec les Allemands ces derniers mois, notamment avec Franz-Walter Steinmeier et Olaf Scholz sur la question des livraisons d'armes allemandes à l'Ukraine. Et là, Zelensky a fait ressortir un côté très émotionnel. Et je crois que c'est dans une interview à un journal italien il y a quelques jours que Zelensky s'est fait très critique envers Emmanuel Macron. Les élites ukrainiennes reprochent à la présidence française et à certains conseillers autour de la présidence de vouloir maintenir le lien avec la Russie et de vouloir inclure la Russie dans l'équation de la paix à venir. Parce qu'Emmanuel Macron a notamment parlé de cette communauté politique européenne future qui permettrait d'inclure l'Ukraine dans un schéma européen sans la faire rentrer dans l'Union européenne. Mais Emmanuel Macron a également évoqué le fait que la Russie pourrait être associée à cette communauté. Et donc cette façon de ménager la chèvre et le chou énerve en plus haut point en Ukraine.
Régis Janté, un commentaire sur cette relation
Oui, mais j'ai l'impression que M. Macron est en train de lui proposer quelque chose qui est absolument inacceptable, qui est la même erreur qu'il avait faite, me semble-t-il. Je crois que c'était une erreur. En 2019, M. Macron avait essayé d'encourager M. Zelensky, lorsqu'il arrivait à la présidence, pour mettre en application les fameux accords de Minsk, qui consistaient en réalité, qui revenaient à abandonner de la souveraineté. Et c'était juste inacceptable. Et au fond, ce qui semble se dessiner aujourd'hui, c'est qu'on voudrait dire aux Ukrainiens, acceptez là où on en est, acceptez le fait acquis militairement. Et ça, c'est inacceptable. Et je crois c'est pour ça qu'il y a cette bagarre.
Il y a eu un retour très remarqué aujourd'hui, c'est le retour des gagnants de l'Eurovision, les membres du groupe de rap Kalush Orchestra. Ils ont également annoncé que leur trophée était mis aux enchères pour collecter des fonds pour l'armée.
Nous planons de statuettes, так? Хочемо продати статуетку для того, щоб зібрати кошти для України. Що мається на увазі? Що дуже багато є людей, які, в принципі, можуть собі дозволити пожертвувати велику суму на допомогу Україні. І от оця статуетка – це буде як додаткова мотивація пожертвувати суму на благо країні і армії.
Cette victoire à l'Eurovision, elle a été vue, elle a été commentée comme une victoire de guerre. Volodymyr Zelensky a même promis d'accueillir donc la prochaine, non pas à Kiev, mais à Mariupol. Mariupol libre, pacifique et reconstruite. C'est très ambitieux.
Et je crois que dans le contexte actuel, toutes les victoires sont bonnes à prendre. Il y avait déjà eu une victoire de l'Ukraine dans l'Eurovision en 2016, Jamala, une chanteuse de Crimée, qui avait remporté la compétition. Et ça a un aspect émotionnel qui n'est pas à négliger dans le contexte actuel. Maintenant, c'est sûr qu'on est dans le domaine du soft power. Combien de temps va durer la guerre? On ne sait pas. Reconstruire Mariupol d'ici à l'année prochaine, c'est peu probable. Mais on est dans le déclaratif. Et je crois que c'est des messages que Zelensky est en train d'adresser à son propre peuple, de façon à dire on continue le combat, on résiste. Mais quelque part, il n'a pas besoin de se forcer, parce qu'on voit l'attitude de ce chanteur Kalush, qui est un rappeur très connu en Ukraine. L'Ukraine est un pays qui est composé de héros et qui font preuve d'une résilience assez incroyable. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le message qu'on souhaite apporter dans ce livre. Si Zelensky est un héros, il l'est uniquement par la grâce des Ukrainiens, qui font preuve d'un courage absolument incroyable. Je parlais de ces 100 000 volontaires qui étaient allés à la défense territoriale très très vite, dès les premières heures du conflit. Mais moi, au quotidien, à Kiev, dans le pays, je vois des actes d'une bravoure incroyable. Et Zelensky n'a fait que se hisser à la hauteur de ses citoyens. Et moi, je crois même qu'il n'avait peut-être pas le choix. Si jamais il était parti du pays, si jamais il avait accepté la proposition des Américains et des Britanniques de le sortir d'Ukraine, il n'aurait jamais pu revenir. Il n'aurait pas été à la hauteur de ces gens qui font un sacrifice incroyable actuellement.
Zelensky dans la tête d'un héros, c'est signé Stéphane Sillon et Régis Janté. Merci à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est à paraître le 19 mai, c'est-à-dire demain.
Jeudi.
Cher Robert Laffont, merci beaucoup à tous les deux. Et on est peut-être qu'au début de l'histoire de ce président ukrainien. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité, et notamment cette décision qui a surprise. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a interdit samedi l'exportation de blé. Son pays avait pourtant promis de nourrir le monde pour éviter une pénurie due à la guerre en Ukraine. Il y a encore 9 jours, les producteurs indiens de blé pensaient approvisionner le monde entier.
À cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, beaucoup de pays n'ont plus de blé. Mais l'Inde va en exporter pour répondre à leurs besoins. Nous en avons tellement, regardé, il y en a partout.
Alors que l'ombre d'une pénurie plane sur le marché mondial, l'Inde veut devenir le nouveau grenier à blé de la planète.
Avant la guerre, on pouvait stocker ici le blé sans aucun problème. 2, 3, 6 mois. Mais maintenant qu'il y a la guerre, on va arrêter tout ça et on va exporter très bientôt.
Bonsoir Nicolas Bétouf.
Bonsoir Elisabeth.
Directeur du quotidien L'Opinion. Alors, dès qu'il y a un problème économique, on vous appelle. Donc évidemment, l'annonce du Premier ministre indien a fait qu'on vous appelait. L'Inde, c'est l'un des 10 plus grands exportateurs de blé au monde, qui décide de garder pour lui sa production,
oui.
Avec un impact immédiat pour l'économie mondiale.
Alors c'est le premier ou le deuxième, selon les années, producteur de blé au monde, et c'est en effet le dixième. C'est un petit exportateur de blé à l'échelle de ce que font la Russie, l'Ukraine, par exemple, et d'autres pays européens. Il y a une tension sur les prix du blé depuis le début de la guerre d'Ukraine. Il y a une tension sur les prix du blé du fait de la sécheresse et on sait déjà que la saison prochaine sera en déficit de production. Donc il y a d'ores et déjà une tension sur les prix. Et cette tension est aggravée du fait que l'administration américaine, le ministère américain de l'Agriculture a annoncé juste avant le week-end qu'il y aurait donc une forte tension sur les prix. Ça a alimenté précisément cette tension. Et dimanche, en effet, le Premier ministre indien a dit ben, finalement, contrairement à ce que j'avais dit, nous n'exportons plus. Et même si c'est une petite quantité de blé qui va manquer, la tension est déjà telle que ça fait exploser.
Flamber les prix. Voilà. Avec une conséquence pour les consommateurs en France, pardon de ramener ça.
Ben, oui, oui, non, mais vous avez raison, parce que c'est un marché mondial, parce que c'est une contagion, en fait. La question des embargos, des taxes, des quotas, enfin, tous ces sujets-là sont des sujets hautement inflammables et hautement viraux. Un pays prononce un embargo. Immédiatement, il est sanctionné par d'autres qui prononcent des embargos ou qui augmentent des taxes contre ce pays-là. Des observateurs, des think tanks avaient noté que juste au début de l'année, il y avait 3 pays dans le monde sur le commerce alimentaire qui appliquaient des embargos, des quotas ou des taxes. Aujourd'hui, ils sont 16. C'est donc une flambée de cette espèce de maladie virale qu'est le protectionnisme et des embargos.
L'inflation, le pouvoir d'achat, c'est bien sûr l'un des premiers chantiers de la toute nouvelle première ministre, Elisabeth Borne, entrée en fonction hier soir, qui doit faire face déjà aux critiques de l'opposition alors que son gouvernement n'est même pas encore constitué.
Madame la première ministre, chère Elisabeth,
je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant: allez au bout de vos rêves.
La fonction, chère Elisabeth, n'est pas davantage exempte d'exposition et de critique. On dit même qu'elle a été créée pour ça.
Elisabeth Borne est une femme, oui. Margaret Thatcher était une femme aussi.
Les salariés vont subir un véritable burn-out.
Manifestement, Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche.
Le bilan d'Elisabeth Borne, c'est le bilan d'une femme de droite.
C'est peut-être la seule femme de gauche qui a accepté de mettre en œuvre la réforme à 65 ans.
Madame Borne serait une femme de gauche. Nous ne lui accordons pas ce label.
Bon courage. Mon numéro ne change pas.
L'enfer de Matignon a commencé pour Elisabeth Borne.
Alors, les deux derniers premiers ministres ont totalement réfuté cette image et nié que Matignon ait été un enfer. Jean Castex s'est épanoui. D'ailleurs, il n'arrête pas de jouer l'homme heureux, heureux d'y avoir été, heureux de partir, no worry, no problem, etc.
Ouais.
Et Édouard Philippe a toujours dit qu'il avait été heureux dans ce poste qui, en effet, dans sa trajectoire initiale, n'était probablement pas à sa portée immédiate et qu'il a propulsé dans ce club très fermé des anciens premiers ministres et désormais probablement un jour candidat à la présidentielle. Donc pour eux, ça n'était pas un enfer. Pour elle, ça peut être différent.
Pourquoi ? Pour elle, spécifiquement ?
Pas pour elle spécifiquement, mais parce que la période est devenue extraordinairement compliquée. Mais bien sûr, si vous voulez, on est à la fois dans un moment économique, on parlait du blé tout à l'heure, un moment économique et social qui est très tendu. Les réserves je veux dire, fiscales, budgétaires, financières ne sont pas épuisées, mais ont été très largement tapées par le quoi qu'il en coûte. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, à la fois par son mode de gestion et puis par la crise Covid, a créé une tension démocratique très importante en France. Et on se retrouve à la veille d'un second quinquennat avec des sujets gigantesques à gérer, un pays qui est fatigué démocratiquement, qui est divisé et qui sera difficile à emmener sur le chemin de la réforme, des réformes qui sont pourtant très importantes et essentielles.
Est-ce que c'est la bonne personne, eu égard à la complexité du moment et à la difficulté de la tâche ?
Ça dépend tout à fait du point de vue où on se passe. Si on considère que les réformes sont des sujets ultra-techniques, qui demandent beaucoup de opiniâtreté, de la raideur, de la rugosité, puisque, je ne sais pas si vous avez vu, le qualificatif qui lui est le plus souvent accolé, c'est une femme rugueuse. Je ne sais pas si c'est un compliment ou si c'est quelque chose qui relève plutôt de la méfiance. Mais de ce point de vue, alors, elle est la bonne personne. Le problème, peut-être, c'est qu'elle n'est pas politique. Et d'ailleurs, elle a été choisie, entre autres, pour ça, par Emmanuel Macron, qui voulait quelqu'un qui soit une sorte de directeur de cabinet ou de directeur général d'une grande entreprise de transformation ou de gestion de la société. Elle n'est pas politique. Vous l'avez noté à plusieurs reprises, elle n'a jamais été élue. Elle se présente pour la première fois, normalement dans une circonscription qui ne devrait pas être très compliquée, mais sait-on jamais. Il peut y avoir une espèce de fusion des contraires.
Si c'est le cas, dans un mois, ça finit. Hein.
Pardon ?
Si c'est le cas, dans un mois, c'est fini.
Oui, parce que c'est la règle, en tout cas.
Ah, c'est la règle. Non, elle ne peut pas rester à Matignon si elle perd dans le Calvados aux législatives. Mais pour compléter ce que vous disiez, Nicolas Bétou, il y a deux choses qui sont distinctes dans le métier de Premier ministre. Il y a la capacité de résoudre effectivement des problèmes compliqués et des relations, de nouer des relations et des relations de confiance difficiles avec les partenaires sociaux, notamment pour ce qui est des réformes en cours, des retraites, ou même pour l'ingénierie écologique qui reste à inventer dans la perspective de la planification. Et puis, il y a la capacité à emmener un pays sur ses réformes, à le convaincre. Or, ce n'est pas faire injure à Elisabeth Borne que de dire que ses capacités de communication, de communicante sur ces 5 dernières années et sur les 3 ministères qu'elle a occupés sont assez faibles.
De faire savoir.
Il y a un sondage qui a montré ce matin que sa notoriété ne dépassait pas les 40 ou 45% dans le pays. Après 5 années passées au gouvernement sur des ministères clés, c'est pas beaucoup quand même.
C'est pas la reine de la communication. C'est pas.
En même temps, il faut être prudent parce que rappelez-vous, il y a 2 ans, à peine 2 ans, lorsque Jean Castex arrive à Matignon avec son accent, sa faconde, sa façon de parler très fort, trop fort. On se dit, mais.
Oui, mais ça faisait pas 5 ans qu'on le connaissait. Il était apparu quelques semaines plus
tôt. Oui, mais il y est arrivé.
Oui, il y est arrivé.
Il a emporté le pays.
En tout cas, c'est un personnage nouveau, alors qu'Elisabeth Borne, ça n'est pas le cas.
C'est vrai.
C'est pour ça qu'elle tient autant à être élue aussi, peut-être, dans le Calvados, pour avoir cette crédibilité ou...
Alors, elle a déjà réfléchi 2 fois à se présenter à une élection. Une fois, elle a renoncé. Une fois, elle a été plutôt dissuadée d'y aller. C'était pour les régionales. Je pense que le fait d'être candidate faisait partie de son parcours de candidate à Matignon. C'est une affaire qui a été lancée il y a assez longtemps. Son nom est cité pour la première fois à la fin de l'automne, au début de l'hiver.
Et avec insistance dès le soir de la réélection d'Emmanuel Macron.
Bien sûr. Et au fond, c'est la chronique des derniers jours de cette nomination assez incroyable qui a été le théâtre d'une vraie bataille entre la droite de la Macronie et la gauche de la Macronie, pour dire les choses simplement. Elisabeth Borne, en effet, est dans un parcours, elle est poussée par Christophe Castaner, Richard Ferrand, enfin la gauche de la Macronie, je simplifie, mais c'est un petit peu ça. Et au fond, elle essaye de cocher toutes les cases, pardon pour l'expression qui est un peu galvaudée, mais elle essaye de passer toutes les étapes qui la rendent, au fond, éligible, entre guillemets, je reprends le terme de Jean-Luc Mélenchon, éligible au poste de Premier ministre. Elle n'avait pas cette case-là, elle était vraiment très techno. Jean Castex était un techno, mais il était élu local, élu de terrain. Il fallait qu'elle coche cette case et elle l'a fait. En se présentant.
Non, mais pour compléter, on en parlait hier avec Christophe Castaner, pour éclairer cette bataille, ça s'est joué dans les derniers jours avec une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, en l'occurrence Catherine Vautrin, contre laquelle il y a eu un véritable tir de barrage de la part des élus macronistes venant du Parti socialiste.
Un tir de barrage, si vous voulez, c'était pour eux une occasion... presque impossible à laisser échapper, de enfin récupérer Matignon. On a eu 2 premiers ministres. Les 2 premiers premiers ministres ont été des premiers ministres de droite. La Macronie en a quand même beaucoup souffert. La Macronie de gauche, les historiques. Emmanuel Macron, il crée un parti à partir du Parti socialiste. Et les grands féodaux de ce parti, c'est Richard Ferrand, Christophe Castaner et Gérard Collomb. C'est des gens qui viennent de la gauche. Et puis vous avez autour Guérini, Émilien et des gens comme ça qui sont profondément de gauche. Et donc l'arrivée de cette escouade emmenée par Édouard Philippe, les Darmanin, Le Cornu, Solaire au début et tous ces gens-là, ils prennent une partie du pouvoir. Et donc assez tôt, si on comprend bien, et on fera notre manchette demain sur le sujet, si on comprend bien, la droite, en particulier des gens comme Thierry Soler, un des conseillers politiques d'Emmanuel Macron, se met en tête de propulser au poste de Premier ministre, en cas de réélection d'Emmanuel Macron, un ou une Premier ministre de droite. Et tout ça vient très bien s'harmoniser avec les liens qui se nouent avec Borloo, Jean-Louis Borloo, qui rentre un peu dans le système. Catherine Vautrin est proche de Jean-Luc Borloo. Tout ça fait que ce nom qui, au fond, était assez improbable, là aussi, et même totalement improbable,
très improbable.
arrive sur la table et Emmanuel Macron, au fond, considère que, si on comprend bien ce qui s'est passé, si on arrive à bien décrypter ce qui s'est passé, il considère que, en effet, c'est une possibilité. Et puis, en fin de semaine, et en particulier dimanche, un front se monte contre cette nomination qui était quasiment actée. Certains journalistes, Marianne dit par exemple qu'elle avait commencé à réfléchir à son cabinet ministériel. Bon, à ce moment-là, deux fronts conjoints se montent contre cette nomination. Le premier animé par Alexis Kohler, qui lui ne veut pas d'un politique à Matignon, mais plutôt d'une techno. Bon, c'est sûr qu'Elisabeth Borne, ça convient. Donc premier front. Et le deuxième, c'est la gauche plus François Bayrou qui, au fond, est toujours là pour penser qu'il est le meilleur et qu'il aurait pu être Premier ministre. Ben oui. On a rêvé. Il a tellement décrit le portrait robot d'un Premier ministre.
Qui lui ressemblait. tellement.
Il a surtout voulu être président de la République.
Mais c'est fini.
C'est fini.
Et donc voilà, ces deux fronts ont eu raison de la quasi-décision.
Donc Catherine Vautrin a rangé sa liste de gouvernement.
Et elle l'a fait avec une classe quand même... pas exceptionnel, parce que Valérie Pécresse a fait la même chose, elle a salué de façon très classe, et probablement, enfin, il y a des listes qui circulent, vous les avez comme moi, je suppose, et on la retrouve quelque part dans le gouvernement qui va être nommé. Mais rien n'est fait.
Merci beaucoup, la manchette de l'Opinion, demain consacrée aux coulisses de cette nomination.
Terrible bataille, bataille très importante entre la droite et la gauche. Jamais elle n'était apparue aussi clairement, visiblement au grand jour entre deux parties de la Macronie.
Merci beaucoup Nicolas Bétou. Vous restez avec nous. D'autres sujets à vous soumettre dans le 5 sur 5 de Jean-Baptiste Marteau. Pardon messieurs. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir à tous.
17 mai, aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie.
Oui, et les chiffres sont là confirmés. Une journée comme celle-ci est malheureusement toujours utile et toujours d'actualité. Les agressions contre les personnes LGBT+ sont extrêmement nombreuses. Les plaintes ont augmenté de 28% l'année dernière, selon le ministère de l'Intérieur. Et les cas de transphobie sont particulièrement en hausse.
Toujours, malheureusement, aujourd'hui, encore des LGBTI-phobies. Il y a énormément de transphobie. On voit également une augmentation des violences dans le cercle familial, avec beaucoup de violences qui émanent des parents. Pratiquement la moitié des témoignages qu'on reçoit, ce sont des violences qui émanent des parents. Ce qu'on demande, c'est des formations, en fait. Des formations, de la sensibilisation, la création de campagnes de sensibilisation, d'affiches, de spots télé, etc.
Oui, comme le rappelle l'association SOS Homophobie dans ce rapport qui est publié aujourd'hui, bien les LGBT-phobies ne sont pas que des agressions physiques, c'est parfois de simples mots, des insultes trop souvent banalisées. Et contre l'idée justement de sensibiliser et vivre dans la population, eh bien, le magazine Têtu a produit à l'occasion de cette journée mondiale contre l'homophobie un clip, un petit film, dont voici un extrait.
Je pense que c'est mieux qu'on ne va pas arriver ensemble.
Ah mais t'as raison. Bah, j'y vais du coup.
Ouais.
À toutes.
Eh vas-y, attends-moi, Fédé. Allez, avance, fais pas ta fiotte.
Ouais, bah, je fais ce que je peux, c'est lourd.
Bouge.
C'est bon, elle est prête?
Ouais, elle est prête.
À tout à l'heure, les filles.
À toute, chérie.
Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle.
Moi, enfin, tout est refait. Hein.
Comment ça?
Bah, c'est une transe, tu savais pas?
Salut.
Salut.
En fait, j'adore ce que tu fais, hein. Je suis fan.
Merci.
Putain, mais comment je la kiffe, moi aussi, mais tellement relou qu'elle soit Gwyn.
Mais je te jure, tu vas pas me dire qu'il leur manque pas un truc.
Mais grave.
Voilà, c'est dans ce contexte qu'une absence, ne passe pas, Babette, celle du joueur du PSG Idrissa Gueye. Samedi, il n'a pas participé à la journée du championnat dédié à la lutte contre l'homophobie. Tous les joueurs ont arboré un maillot dont le flocage était de couleur arc-en-ciel, tous, sauf le milieu de terrain sénégalais. Et déjà l'année dernière, il avait prétendu avoir une gastro-entérite pour éviter d'avoir apporté ce maillot lors de la journée de championnat. Mais cette fois-ci, eh bien, le PSG a refusé de couvrir Gueye. Le club parle d'une décision individuelle, d'une prise de décision pour des raisons personnelles, dit le club. Idrissa Gueye s'est attiré les foudres, évidemment, de l'ensemble du monde sportif et politique, jusqu'à la ministre des Sports démissionnaire, Roxana Maracineanu. À nous. Les associations de lutte contre l'homophobie dans le milieu du foot sont également furieuses, notamment Rouge Direct, que sont allés voir Iban Raïs et Audrey Payas. Son président vient en fait d'écrire une lettre à la Ligue de foot professionnelle et également au Paris Saint-Germain pour réclamer des sanctions contre le joueur.
Le PSG et la Ligue ne réagissent pas, eh bien, ce serait reconnaître un droit à l'homophobie, ce serait reconnaître un droit au rejet des homosexuels. C'est quand même extrêmement grave. Maintenant, il faut que le PSG réagisse vite et que tout ce cirque s'arrête. On voit que M. Gay il a réagi pour dire que la communication du PSG ne lui convient pas. Le PSG ne sait pas sur quel pied danser. On sanctionne, on ne sanctionne pas. On n'y comprend plus rien. Il faut un message clair. On est le 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Donc le PSG, qui prétend avoir défendre ces valeurs-là, doit maintenant clarifier la situation.
Bon, et ce n'est pas la première fois que le monde du foot est rattrapé par des comportements ou des actes homophobes, en tout cas pas très gay-friendly, on pourrait dire. Les chants homophobes dans les tribunes sont très fréquents et les dirigeants sont souvent bien timides dans leurs réactions. Souvenez-vous du patron de la fédération de foot, Noël Le Graët, c'était en 2019.
Considérer effectivement que le football est homophobe et peut être l'image seulement d'homophobie en France, c'est quand même un peu fort de café. J'accepte pas un sport qui a 2 200 000 licenciés, qui fait en sorte vraiment d'éduquer, qui a un nombre maximum d'éducateurs parce qu'il a peut-être plus de moyens, qui a des garçons, des filles. On n'a absolument aucun problème que quelques spectateurs exagérés.
Le 17 mai, c'est le jour choisi justement par un footballeur pour faire son coming out.
Ouais, il s'appelle Jack Daniels, alors rien à voir avec une boisson alcoolisée. C'est un jeune joueur professionnel de 17 ans qui joue dans le club Blackpool. C'est en deuxième division anglaise. Il a revendiqué publiquement son homosexualité hier pour un joueur en activité. Eh bien, je peux vous dire que c'est loin, très loin d'être un acte anodin.
Je ne peux pas vraiment mettre une date sur ça, mais peut-être 5 ou 6, vous savez, ça a été quand même assez longtemps. À cet âge, vous ne pensez pas vraiment au football et être gay ne mixe pas. So all the way through my life, I was like, yeah, it's fine. You'll get a girlfriend when you're older and you'll change and it'll be fine. And then as you do get older, you realise you just can't and it's just something that you won't be able to do. So.
Was it a huge sense of relief when you told your family?
The day I told my mum and my sister, the day after we played Accrington and I scored 4. So it just shows how much of a weight off the shoulders it was and just a massive relief.
Ouais, avant lui, il y a très très peu de joueurs professionnels qui ont osé faire leur coming out. Josh Cavano, joueur australien, c'était l'année dernière. Mais le pionnier, il s'appelait Justin Fashanu. C'était en 1990. Et regardez la une du Sun à l'époque en Grande-Bretagne. Star du foot, je suis gay. Titre le tabloïd, un acte qui lui vaudra un torrent d'insultes, des insinuations homophobes hallucinantes qui vont pousser Justin Fashanu au suicide en 98. Il faut rappeler, Babette, que les jeunes LGBT+ ont entre 2 et 5 fois plus de risques de se suicider que les hétérosexuels, selon toutes les différentes études.
Et on rappelle que c'est donc aujourd'hui la journée de lutte mondiale contre l'homophobie. Les suites du procès ultra médiatisé entre Johnny Depp et son ex-compagne Amber Heard.
Oui, alors on rappelle, c'est un procès en diffamation intenté par Johnny Depp, des débats interminables diffusés sur tous les médias américains. Leur vie privée était allée au grand jour, clairement. Alors ça fait des semaines qu'on entendait Johnny Depp raconter sa version des faits. Le témoignage donc de son ex-compagne Amber Heard était très attendu et elle a complètement craqué à la barre.
Over and over again, the most intimate, embarrassing, deeply humiliating and personal things that I've survived are used against me every day. Over and over again, it's torture. I'm in so much pain emotionally. I just wanted him to leave me alone. I wanted to move on with my life.
Et alors c'est un procès dans lequel chaque partie diffuse des enregistrements qui ont été réalisés à l'insu de l'autre, donc des enregistrements illégaux en France en tout cas. Clairement là ça peut servir de témoignage aux États-Unis. Certains passages sont très crus, on va vous les épargner et pas les diffuser. Mais hier tout de même, Amber Heard a marqué les esprits en diffusant cet extrait qui montre un Johnny Depp particulièrement énervé.
We're told when I was recording you, so please stop.
Acknowledge what I'm saying before you keep making demands. You are not a school teacher.
We were discussing whether or not it was all right to record each other without the other's permission. And Johnny said it didn't matter anymore, the requirement of that permission from me. I was trying to say, hey, we agreed.
Ça nous paraît complètement dingue de suivre ce procès sur des écrans et pourtant ça passionne les Américains qui se massent devant le tribunal et parfois ils viennent de très très loin pour suivre les débats.
I started watching the trial about a week and a half ago and I just got addicted and it was 3 hours away and I thought this is very doable. I just got hooked on it. It's like a soap opera. It's very, very, I don't know, I like that kind of stuff, reality TV.
I found out a week ago that we were able, the public was able to come to the court hearing, and I didn't know that.
Months ago, the war between Russia and Ukraine started, and I am Russian, and only this trial got me out from this situation with my country.
Ouais, ça permet même aux certains Russes de s'évader.
On se demandait où cette jeune femme voulait en venir.
Bon, toute la question maintenant, c'est de savoir si cette surmédiatisation est propice à un procès apaisé et impartial. On peut évidemment en douter. Et c'est ce que doute également cette journaliste spécialiste des réseaux sociaux. Elle répond à Camille Schmitt et Emma Touré.
Il y a des gens sur TikTok qui se filment en train d'imiter principalement Amber Heard, donc qui est quand même la plus mal vue dans le procès, c'est-à-dire qu'elle est victime d'attaques très sexistes. On peut penser que ça peut avoir un impact aussi sur le jury, puisque le jury alors, n'est pas censé regarder quoi que ce soit de ce qui se dit à propos du procès, en dehors du procès, sauf que malheureusement, enfin, c'est partout. C'est dangereux parce que c'est surtout quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être normalement, c'est-à-dire que là on fait fi de la présomption d'innocence, ça n'existe plus, puisque chacun a son avis, et ça peut avoir un impact aussi sur le verdict.
Voilà, les débats justement se poursuivent jusqu'au 27 mai, et ensuite les 7 jurés vont se retirer pour délibérer.
Voilà, sans regarder les réseaux sociaux. Tout autre chose avec un couple qui aurait pu toucher le gros lot à l'Euromillion.
Ah, qui oui. aurait pu, et eh oui, qui ouais. aurait pu. Parce qu'en fait, ils avaient bien trouvé les 5 bons numéros vendredi dernier, c'était vendredi 13.
Ah bon ?
Alors vous imaginez l'excitation, jeune couple, ils ont 21 et 23 ans, ils vivent près de Lille, ils découvrent le résultat, ils disent que ça y est, ils connaissent ces numéros, qu'ils ont peut-être gagné le gros lot. Bon, le problème, c'est qu'ils ont joué à l'Euromillion. Ils n'ont pas joué à l'Euromillion, ils ont joué au loto. En fait, ils se sont trompés de jeu. Donc, ils avaient les bons numéros, mais pas du bon jeu. Donc, effectivement, Hilda et Louis, c'est leur prénom, 17, regardaient incrédules dans leur lit en découvrant cette inversion.
Non !
Bon, ça leur a fait perdre 23 000 euros seulement, pourrait-on dire, mais c'est quand même 2 ans de loyer pour ce jeune couple qui habite près de Lille. Bon, il y en a d'autres qui s'en mêlent également les pinceaux et qui mélangent les chiffres du loto, comme cet animateur aux États-Unis, là, qui a annoncé un 6 au lieu d'un 9, qui était le dernier chiffre du tirage.
Our first winning number tonight is 15, that's followed by 19. Up next we have 70. Your next number is 61, and your final white ball number for this Tuesday evening is 20. Now for the gold mega ball, that is 6. Again, tonight's winning numbers are 15, 19, 70, 61, 20, and the gold mega ball is 6. Now, if no one matches all 6 numbers, Friday's jackpot could be $99 million.
Ce qui est dingue, c'est que le mauvais numéro a quand même été incrusté à l'écran également. Donc il l'a dit et oui. Ça a été en plus écrit à l'écran, l'erreur. Il y avait 86 millions de dollars en jeu ce jour-là. Résultat, il y a plusieurs dizaines d'Américains qui se sont rués pour aller retirer leurs gains, qui n'en étaient pas un, puis qu'ils n'avaient pas gagné. Évidemment, fausse joie là aussi.
Bon, des bonnes nouvelles ce soir, des vrais gagnants ou pas?
Pour le million, l'euro-million?
Non, mais les vrais gagnants de la reine d'Angleterre.
Eh oui, la reine, hier, Mathieu Béliard vous montrait évidemment des nouvelles de la reine Elisabeth II qui était venue voir un spectacle équestre. Eh bien, nouvelle apparition inattendue ce matin. La reine s'est invitée à l'inauguration d'une ligne de métro à Londres, alors pas n'importe laquelle. C'est une ligne qui porte son nom et la presse attendait plutôt la présence du prince Édouard. Bah, surprise, voilà, qui arrive pour l'inaugurer.
Ah oui.
Bon, elle avait quand même gardé sa canne, effectivement, parce qu'elle a toujours des difficultés à marcher. Mais c'est quand même la 3e sortie en public de la reine en une semaine. Record pour celle qui n'avait fait qu'une seule apparition ces 6 derniers mois.
Ah oui, elle essaye de battre un record. Elle est quand même extraordinaire, cette femme.
On va la retrouver à Kiev.
Absolument formidable. Formidable.
Bon,
ce
voir.
Geste là, qu'elle a dû faire des milliers de fois, de tirer le rideau comme
oui.
ça. C'est très impressionnant. Elle a 96 ans.
Ouais. Voilà. Son jubilé dans un mois.
Et elle sera en pleine forme pour son jubilé dans un mois qu'on couvrira largement dans C'est à vous. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous, Nicolas Bétou, avec à la une demain du quotidien les coulisses de cette incroyable nomination, la guerre de la gauche et de la droite de la Macronie. Merci beaucoup Régis Janté, Stéphane Sillon, Volodymyr Zelensky dans la tête d'un rose, c'est à paraître jeudi. Cher Robert Laffont, merci messieurs d'être venus sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, un plateau de rêve, Marion Cotillard, Arnaud Desplechin, Melville Poupeau, dont le film sera présenté à Cannes. Et puis nos envoyés spéciaux, Pierre le président et Mohamed, le petit jeune qui fait ses premiers pas, son baptême cannois à suivre. À tout de suite.